Bonjour, bienvenue dans l'émission Histoire de savoir sur Radio Campus, la radio de l'université de l'ULB. Je suis Marine Waterkind et ce matin, Océane, Olisa, Soares et moi, nous vous proposons de plonger au sens propre dans une aventure scientifique fascinante.
Bonjour à tous et à toutes, bonjour Marine, moi c'est Océane et en effet, ce matin, nous nous lançons dans une immersion au cœur d'un projet d'exploration marine mené à Madagascar. Nous partons plus précisément dans l'archipel de Nosy Be, d'où l'expédition tire son nom, Nosy Be 100.
Alors, concrètement, il s'agit d'une recherche qui explore une zone encore très peu connue des scientifiques, la zone mésophotique. C'est une zone située en profondeur, là où la lumière du soleil commence à disparaître. Un espace difficile d'accès, mais pas assez pour arrêter les chercheurs que nous allons rencontrer ce matin.
Et oui, pour mieux comprendre cette exploration, nous partons en plongée avec les deux directeurs de l'expédition, les biologistes marins Luca Terrana et Camille Moreau. Leurs témoignages ont été enregistrés et vous les entendrez tout au long de cette émission.
Le docteur Luca Terrana est un expert en biologie marine. Il partage son temps entre ses fonctions de chargé de collection au musée d'histoire naturelle de Tournai et son rôle de chercheur associé au laboratoire de biologie marine de l'ULB. Spécialiste mondial des coraux noirs de Madagascar, il possède une expertise rare de plongée en recycleur hypoxique, une technique de pointe qui lui permet d'explorer l'océan à des profondeurs dépassant les 100 mètres, pour y mener des travaux de collecte et de description des espèces sous-marines.
Le docteur Camille Moreau est lui chercheur post-doctorant à l'ULB. Spécialiste des échinodermes, une famille d'animaux marins comprenant les étoiles de mer ou encore les oursins, il s'intéresse particulièrement à la biodiversité de la zone crépusculaire ou zone mésophotique de l'océan. Photographe sous-marin aguerri, il utilise la photographie macro pour documenter avec précision cette faune abyssale. Il assure également la coordination logistique ainsi que le traitement scientifique des échantillons ramenés des profondeurs.
Avec ces deux experts en biologie marine, nous allons découvrir à quoi ressemblent ces paysages sous-marins, quels organismes y vivent et pourquoi aujourd'hui ces zones sont au cœur d'enjeux scientifiques et environnementaux.
Cette émission sera également rythmée musicalement avec les morceaux de deux groupes belges. Le premier s'appelle Ali Gaga, en un seul mot, groupe emo jazz bruxellois formé par le contrebassiste et compositeur italien Federico Corsini. Nous passerons des extraits de leur album Music Might Help, sorti en 2023. Le deuxième est un groupe flamand, His Trust Fund, formé à Anvers par le chanteur et guitariste Philippe François.
Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous emporter avec nous dans cette exploration des profondeurs.
Direction l'océan Indien.
Nous y sommes. Après plusieurs heures de voyage, nous voici à Nosy Be, au nord-ouest de Madagascar. Le changement de décor est immédiat. Chaleur tropicale, végétation dense, le début d'une aventure qui réserve son lot de surprises.
Avant même de plonger, il faut s'adapter. À l'environnement, bien sûr, mais aussi à la vie en groupe. On écoute Camille Moreau qui revient sur cette première phase d'installation et sur l'importance du collectif dans ce type d'expédition.
Il y a toujours un petit temps de mise en place. Il y a un temps d'acclimatation aussi, surtout pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller sous les tropiques et à Madagascar. Mais quand on fait des missions comme ça, en fait, on va se retrouver à entre 6-8 personnes à vivre vraiment dans un espèce d'écosystème très restreint pendant 4, 5 ou 6 semaines. Du coup, le choix des personnes se fait aussi en partie en fonction de ça. Il faut qu'on choisisse des gens avec qui on sait qu'on va réussir à travailler correctement et avec qui on ne va pas non plus avoir trop de tensions, etc. Parce que vivre comme ça pendant un mois, ça peut apporter des tensions. Il nous fallait des gens qu'on connaisse, parce que pour des raisons de sécurité, etc., c'est bien aussi d'avoir confiance dans les personnes avec qui on plonge, etc. Et des personnes qu'on sait compétentes dans certains domaines, donc que ce soit... Donc là, par exemple, on avait quelqu'un qui travaille dans un centre de plongée qui peut nous aider avec tous les aspects techniques du matériel.
Et en parlant de matériel, imaginez un instant. Vous préparez vos valises pour Madagascar. Normalement, on hésite entre le troisième maillot de bain ou le petit pull au cas où. Eh bien, pour Lucas, Camille et leur équipe, la liste des choses à prendre ressemble plutôt à un inventaire de déménagement industriel. Parce que le premier chiffre à retenir, c'est une demi-tonne. Oui, vous avez bien entendu, 500 kg de matériel embarqué pour explorer la zone crépusculaire. Et tout ça, il faut le transporter, dans la soute d'un avion. Moi qui suis déjà stressée quand je mets la nouvelle cruche que j'ai achetée à Marrakech dans mon bagage en soute, je n'ose même pas imaginer leur état d'esprit au moment d'ouvrir les caisses une fois arrivée à Nosibé. Au fond, le plus gros stress de la mission, ce n'était peut-être pas de croiser un requin de 2,50 m, mais simplement de vérifier que tout le matériel était bien arrivé, et surtout en un seul morceau. Alors qu'est-ce qu'on met dans 500 kg de bagages ? D'abord, la pièce maîtresse, le recycleur hypoxique. C'est une machine complexe qui recycle le gaz que vous respirez pour vous permettre de rester des heures sous l'eau. C'est tellement lourd et encombrant qu'une fois équipé, le plongeur peut à peine bouger tout seul. Et comme l'idée n'est pas de rester planté comme un piquet au fond de l'eau, l'équipe utilise des scooters sous-marins. Ce sont des propulseurs qui permettent de se déplacer en limitant l'effort physique à 120 mètres de profondeur. Bon, limiter l'effort, ça reste relatif. On est loin d'une simple balade. Les plongeurs sont de véritables athlètes. Et scooter sous-marin ou pas, je pense que vous et moi aurions déjà bien du mal à bouger ne serait-ce que d'un centimètre dans ces conditions. Ajoutez à cela des phares ultra puissants pour éclairer le noir absolu, des caissons étanches pour les caméras, des capteurs de température et même un mini laboratoire avec des pots et de quoi conserver les échantillons précieux dès la remontée. Finalement, Lucas nous l'a avoué, une fois que tout le matériel scientifique et de sécurité est emballé, il reste tout juste assez de place dans les valises pour un slip et un t-shirt. Bref, l'exploration extrême, c'est 90% de logistique, 9% de muscles pour porter les caisses et 1% de place pour les vêtements de rechange.
Maintenant que le matériel est prêt et que l'équipe est en place, il est temps de quitter la terre ferme. À bord du bateau, le paysage défile et avec lui, la pression monte doucement. Car ces plongées ne s'improvisent pas. Elles demandent des mois de préparation et d'entraînement intensif. Avant chaque descente, tout est répété, vérifié, anticipé. À ces profondeurs, aucune place n'est laissée au hasard. Lucas Terrana revient sur cette étape essentielle de préparation et d'entraînement.
On peut facilement l'imaginer, hein, pour plonger à ces profondeurs-là, et pendant des durées aussi importantes, on doit être entraîné. Alors entraîné à la fois physiquement, sportivement, mais aussi techniquement. Et donc, à côté de la plongée, il est important de garder une bonne activité physique pour avoir un bon cardio, avoir un minimum de force musculaire, parce qu'on trimballe du matériel qui est extrêmement lourd. Les plongées sont fatigantes, sont très énergivores. Le rythme est très soutenu aussi. Quand on fait ça pendant 5 semaines, je veux dire physiologiquement, c'est pas évident. D'autant plus qu'on a aussi le facteur tropical à prendre en compte, avec les maladies parfois qui vont avec. Donc voilà, physiquement, il faut être en bonne santé. Et puis à côté de ça, techniquement, il faut aussi être extrêmement préparé, avec une mémoire musculaire qui est bien rodée. Et donc, à cet égard, toute l'année, on s'entraîne dans des carrières, ici en Belgique. On a la chance d'avoir des carrières qui descendent jusqu'à 50 mètres, donc ça commence à être des profondeurs auxquelles on peut vraiment s'entraîner dans des conditions qui peuvent un petit peu se rapprocher de ce qu'on va découvrir sur place.
Et puis, une fois prêt, on plonge. On vous emmène avec nous sur la surface de l'océan Indien. Une descente en compagnie de Lucas Terrana et au rythme de la musique Seiya de Ali Gaga, issue de l'album Music Might Help, qui, on l'espère, vous mettra dans l'ambiance.
Donc Nosibé, pour imaginer un petit peu mes paroles, donc c'est un archipel d'îles et quand on quitte la plage, on est sur un plateau relativement peu profond qui va de 10 à 30, 40 mètres à peu près au large. Et L'essentiel des récifs coralliens, évidemment, se trouve dans cette zone, puisque les récifs coralliens ont besoin de lumière pour subsister. On continue notre progression sur le substrat, sur le fond. Et on arrive en fait à ce qui représente la fin du plateau continental. Donc il faut s'imaginer qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, voire centaines de milliers d'années, le niveau de la mer était 150 mètres plus bas. Et donc on a, au niveau du paysage sous-marin, une représentation historique de ce qu'était le continent à l'époque. Et donc quand on est sous l'eau, on voit cette transition, et quand on arrive vers 55-60 mètres, on voit réellement une marche d'escalier avec un mur vertical et vertigineux qui tombe jusqu'à 150 mètres et plus, et qui représente en fait le suivi de la hausse des niveaux marins suite à la fonte des glaces à l'époque.
Nous sommes désormais dans la zone mésophotique, un terme qui nous est encore peu familier. Pour mieux comprendre cet environnement, encore largement méconnu, nous avons posé quelques questions à Luca Terrana et Camille Moreau, qui nous accompagnent depuis le début de notre plongée immersive.
Vous travaillez tous les deux sur les écosystèmes mésophotiques. Camille Moreau, pouvez-vous nous expliquer concrètement ce que ce terme signifie ?
Les gens, lorsqu'on leur parle de récifs coralliens, par exemple, parce que là-bas, c'est des récifs coralliens, ils vont avoir en vision des récifs comme en Polynésie ou des choses comme ça, avec grand soleil, la mer bleue turquoise, tous ces organismes, les poissons clowns dans les coraux, etc. Et nous, là où on va travailler, donc c'est dans la zone mésophotique. Donc c'est ce qu'on appelle en français la zone crépusculaire. Et donc c'est une zone où la lumière, à cause de l'épaisseur de l'océan, la lumière ne va pas pénétrer totalement dans l'eau. Et donc au bout d'un moment, on a quasiment plus de lumière. Du coup, les écosystèmes sont totalement différents, puisque la plupart des écosystèmes en côtier reposent sur la lumière et sur la photosynthèse, etc.
Luca Terrana, peut-être que vous souhaitez compléter cette définition.
Alors, la zone mésophotique, étymologiquement, ça veut dire la zone qui reçoit peu de lumière. Donc, méso, en grec, mésos, peu, photos, la lumière, donc peu de lumière. Et donc, la zone mésophotique, traditionnellement, elle est située entre 30 et 150 mètres de profondeur, quel que soit l'endroit sur Terre où on se trouve. Cette limite supérieure et inférieure, elle va varier selon les conditions environnementales, parce qu'en fait, si on s'en tient purement à la définition du mot, on pourrait avoir des zones extrêmement sombres et turbides à faible profondeur, qu'on serait déjà dans la définition du mot mésophotique. Mais voilà, traditionnellement, il y a quand même des limites qui sont acceptées entre 30 et 150 mètres de profondeur.
Luca Terrana, en quoi est-il particulièrement intéressant d'explorer cette zone précise aujourd'hui ?
On est vraiment dans une zone qui est difficile d'accès et qui, historiquement, a toujours été très peu étudiée. Parce que la plongée classique, disons, avec une bouteille sur le dos en respirant de l'air, elle est extrêmement utilisée dans le monde entier pour étudier les récifs coralliens, les organismes marins, etc. Tout ce qui est profond, plusieurs centaines de mètres, voire milliers de mètres, avec le développement technologique qu'on a aujourd'hui, il y a évidemment des robots sous-marins qui permettent d'aller explorer ces endroits. Mais par contre, c'est justement cette zone située entre 30 et 150 mètres, elle est un petit peu dans un no man's land, où c'était trop profond pour la plongée classique, et pas assez profond pour déployer des moyens technologiques importants qui prennent de la place, qui sont volumineux, difficiles à manipuler et qui coûtent extrêmement cher. Et récemment, ces quelques dizaines de dernières années, avec le développement de la plongée technique, on a pu commencer comme ça, avoir accès à cette zone qui était un petit peu inexplorée. Et c'est comme ça qu'on l'a pu, que l'être humain a pu en fait déposer pour la première fois de l'histoire son regard sur ces écosystèmes totalement inconnus.
Et alors, Luca, nous avons plongé avec vous il y a quelques minutes dans ces écosystèmes. Vous nous avez notamment parlé des coraux noirs, qui sont votre spécialité. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces organismes ?
Alors évidemment, mon sujet d'expertise principal est représenté par le groupe des coraux noirs. Le nom scientifique, c'est Antipater, en latin Antipataria. Pour l'anecdote, ça vient du latin Antipates, contre la maladie, puisque ce sont des coraux qui, historiquement, ont été pêchés depuis l'Antiquité déjà. Et à l'époque, on leur attribuait des vertus médicinales. Et donc, on en faisait des poudres et c'était utilisé en pharmacopée pour soigner les gens. Et donc, de là est venu le nom de antipater, en français, qui vient de antipathèse, contre la maladie. Et donc, je travaille sur les antipathères, qu'on appelle aussi coraux noirs, parce qu'ils ont un squelette noir. Donc, c'est-à-dire que si vous regardez des photos de l'expédition en ligne, vous verrez que ce n'est pas du tout noir. Ce sont des colonies qui sont blanches, un peu jaunâtres, parfois avec des couleurs vertes, brunes. Mais par contre, dès qu'on retire les tissus vivants qui sont autour du squelette, on voit justement apparaître ce squelette qui a une apparence noire et noir mat profond. Et ça leur a d'ailleurs valu des problèmes à ces pauvres coraux parce que, de par cet aspect tout à fait unique de leur squelette, ils ont longtemps et encore à l'heure actuelle été pêchés pour la bijouterie. Donc non seulement dans certaines régions du monde, ils sont encore pêchés pour en faire des poudres médicinales, notamment dans certains pays asiatiques, mais en plus, on les pêche pour en faire des bijoux. Des bijoux qui valent assez cher, puisque le squelette est ensuite taillé, poli, et ça fait vraiment des pierres précieuses. Et donc, à Nocibé, comme partout ailleurs, en fait, on retrouve ces coraux noirs qui deviennent beaucoup plus abondants et beaucoup plus diversifiés dans la zone mésophotique, en tout cas à cet endroit-là.
Et au-delà des coraux noirs, Camille Moreau, comment décririez-vous les paysages sous-marins auxquels votre équipe a été confrontée dans cette zone ?
Moi, mes travaux, c'est plus sur les échinodermes, donc les étoiles de mer, les oursins, les choses comme ça. Mais ce qui se passe, pourquoi il y a l'accent est mis un peu sur les coraux noirs, c'est que à ces profondeurs, donc on n'a plus les coraux classiques qui vont construire les récifs et qui dépendent beaucoup de la lumière du soleil. On va retrouver d'autres types de vie, dont les coraux noirs, les gorgones et les éponges. On va retrouver ce genre d'organismes en majorité. Et en fait, ces organismes, ils vont former soit des forêts, bon, c'est pas la forêt amazonienne non plus, mais ça va former comme des petits buissons par-ci, par-là. Et ça va permettre de soutenir tout un écosystème avec plein de vie qui va venir s'installer dedans. Donc, ça, c'est un sujet de recherche qui est assez à la mode en ce moment, les forêts animales marines. Donc, c'est des petites forêts formées d'organismes comme les coraux noirs, les gorgones ou les éponges, et qui vont venir accueillir plein d'autres organismes, donc des poissons, des crustacés, plein de choses, les échinodermes.
On entend souvent dire que l'on connaît mieux l'espace que les fonds marins. Camille Moreau, est-ce vraiment le cas ?
Alors, on dit souvent, alors peut-être pas l'espace, parce que l'espace, c'est quand même infini, on va dire, donc on ne connaît pas forcément mieux l'espace, mais on dit souvent qu'on connaît mieux la surface de la Lune que le fond des océans. Le problème, évident, c'est que voilà, il y a jusqu'à 12 km d'eau au-dessus du fond des océans, et que donc l'exploration des océans, c'est très complexe.
Merci beaucoup Lucas Terrana et Camille Moreau pour ces éclairages fascinants sur cette zone crépusculaire. Pour information pour les auditeurs, si vous voulez voir les images de l'exploration, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle Deep Exploration Island of Nocibé, Madagascar. Nocibé s'écrit N-O-S-Y espace B-E. Mais au-delà de la science, il y a le vécu de l'explorateur. Nous vous proposons à présent de plonger dans le vif du sujet avec ce reportage sur les moments forts de l'expédition, entre adrénaline, d'une rencontre inattendue et les découvertes miraculeuses que la zone renferme.
Quand on plonge à 150 mètres, on n'a pu passer que 7 minutes à 150 mètres. Cette zone profonde, personne n'y avait jamais été. Donc l'équipe belge issue de l'ULB était pionnière dans ce domaine.
Je crois que c'est le sentiment des explorateurs quand un peu à l'ancienne. Donc nous, c'est ça qui nous anime, c'est de faire de l'exploration pure. On se rend dans un endroit où personne n'a jamais été, on essaie de décrire les choses. Et du coup, voilà. Enfin, pour moi, en tout cas, moi, c'est ça qui m'a amené, on va dire, à faire de la science. C'est ce qu'on aime et du coup, on a un gros penchant vers les expéditions et les missions de terrain.
On s'est retrouvé face à face avec des requins de plus de 2,50 m à 80 mètres de profondeur. Pas du tout de sentiment de danger ni de peur, mais par contre, ça reste très impressionnant, évidemment. Puisque nous, en plus, avec les machines qu'on utilise, qui sont les recycleurs, on ne fait pas de bulles et on ne fait pas de bruit. Donc, on n'effraie pas du tout les poissons, on n'effraie pas du tout la faune marine. Et donc, le requin nage vers toi directement, il vient te voir, il te regarde du coin de l'œil, ils donnent un petit coup de nageoire assez brusque pour changer de direction. Et donc, ils ont des comportements qui sont un petit peu intimidants, mais qui sont normaux, en fait, à partir du moment où on sait les décrypter et on sait se comporter de la bonne façon. Donc voilà, ça reste des rencontres qui marquent et qui sont impressionnantes. Mais quand elles sont abordées de la bonne façon, ça fait pas du tout peur, quoi. Toute la mission, on doit être pas loin d'une cinquantaine de plongées au total, dont plus ou moins 20 très profondes. Alors la plus profonde qu'on a effectuée, c'est une plongée à 152 mètres, au cours de laquelle on a fait une découverte assez exceptionnelle, puisqu'on a pu observer et explorer une grotte sous-marine, dont l'entrée était située à 140 mètres de profondeur. Donc au sein de cette grotte, on a trouvé en fait une espèce d'anguille dite panchronique. Alors le terme panchronique, c'est le terme valable pour dire entre guillemets fossile vivant. On entend souvent parler de fossile vivant, mais on dit panchronique puisque c'est une espèce qui morphologiquement est presque identique à des fossiles qui datent d'il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Et donc au sein de cette grotte, on a découvert cette anguille panchronique. C'était pas du tout une rencontre qu'on attendait. Et là, on se rend compte qu'en fait, cette anguille, elle a une morphologie tout à fait particulière. Et en faisant un petit peu de bibliographie, on se rend compte qu'elle n'a été observée qu'une seule fois à Palaos. Donc c'est une île dans le Pacifique, donc vraiment à l'opposé de Madagascar, dans une grotte à 35 mètres. Et donc là, on l'observe à Madagascar à 140 mètres de profondeur. Donc ça, c'était vraiment une découverte exceptionnelle.
C'est une expédition très ambitieuse qu'on a fait. Il y a eu cette grotte sous-marine qui a été découverte à environ 140 mètres de profondeur, je crois. Et là, bon, il faut bien se rendre compte que c'est juste un gros coup de chance de descendre au hasard au milieu de l'océan et de tomber sur une grotte. Et à l'intérieur de cette grotte, ils ont réussi à filmer des organismes qu'on voit pas, enfin qui sont relativement rares. Donc ça, c'était probablement une des découvertes majeures pour l'instant de cette expédition. C'est un peu ce qu'est le rêve de beaucoup, en tout cas de biologistes marins, je pense, de chercheurs en général, c'est de faire de l'exploration, quoi.
C'est un mélange d'excitation, de se sentir un petit peu aventurier, se sentir privilégié, mais aussi de se sentir redevable, en fait. On est un peu à la recherche du Graal, hein, en quelque sorte. Au fur et à mesure qu'on descend, on commence à se retrouver dans l'inconnu, et là, c'est vraiment un pur bonheur, parce que voilà, on voit pour la première fois au monde des espèces qui n'ont jamais été observées. L'adrénaline qui monte, puisqu'on se dit, tiens, c'est la première fois qu'un être humain va descendre à cet endroit-là, à cette profondeur-là. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va trouver? On a fait des photos comme ça, à plein de profondeurs différentes, de 20 à 120 mètres de profondeur. Et parfois, ça passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de se rendre compte de tout ce qu'on observe. On mitraille le plus possible, et après, L'après-midi, on prend le temps de passer en revue toutes les images, les vidéos, les photos. Évidemment, on a fait beaucoup de photographies parce que, ben, mine de rien, les observations imagées, c'est, surtout à ces profondeurs-là, c'est très important pour documenter la distribution des espèces. On a fait des relevés de taille des coraux aussi, par exemple. Donc voilà, on a mis en place toute une série de protocoles relativement simples, mais exploratoires et essentiels pour avoir les bonnes fondations, pour aller plus loin la prochaine fois. Dans le monde marin, il y a encore énormément de zones inconnues, de choses qu'on ne sait pas, de parties inexplorées. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez excitant de se dire que, ben, en 2025, l'année passée, en 2026 aujourd'hui, il y a encore des endroits sur Terre où on peut faire de l'exploration, où on ne connaît pas quels sont les organismes qui s'y trouvent, comment sont les écosystèmes, etc. Donc, il y a aussi cette partie un petit peu d'aventurier qui est excitante, en plus d'avoir ce volet évidemment scientifique.
Fascinant. Nous venons de passer un long moment au fond de l'océan à suivre les aventures de Luca Terrana et Camille Moreau. La musique vous est proposée par le groupe bruxellois Ali Gaga et des extraits de leur morceau Hurricane, issu de l'album Music Might Help. Et maintenant, si on se concentre sur ce qu'on vient de vivre, notre immersion au fond de l'océan a duré exactement 7 minutes.
Mais ce que les chercheurs racontent, c'est que ce chiffre n'est en réalité qu'une toute petite partie de l'histoire. En plongée profonde, il existe un décalage énorme entre le temps passé à explorer et la durée totale sous l'eau. À plus de 100 mètres de profondeur, les scientifiques n'ont parfois pas plus de 7 minutes pour travailler au fond. Un temps court qui se paye au prix fort, plus de 4 heures d'immersion au total. La plongée est si longue parce qu'on ne peut pas remonter directement. Après avoir plongé si bas, une remontée trop rapide peut avoir de graves conséquences, potentiellement la mort du plongeur. C'est pour ça que les plongeurs doivent effectuer de longs paliers, dits de décompression, à différentes profondeurs. Océane, peux-tu nous expliquer comment ça marche, ce phénomène de décompression ?
Bien sûr, Marine. Alors, je ne parle pas là de décompresser après les cours ou le travail, bien que cette décompression-là aussi est nécessaire. Et quelque chose d'autre qui est vraiment nécessaire, c'est de respirer. Sur Terre, quand on respire de l'air, on absorbe l'oxygène et on évacue le CO2, pour faire très simple. Il y a 21% d'oxygène dans l'air qu'on respire. Mais je ne vous apprends rien, les humains ne respirent pas sous l'eau. Les plongeurs sous-marins sont équipés de bonbonnes pour respirer. Ensuite, leur corps expulse des gaz, comme sur la Terre, mais pas à la même pression. Vu que, sous l'eau, la pression est plus haute, le corps se retrouve face à un phénomène de saturation. Ça veut dire quoi ? En gros, une augmentation de la pression des gaz qu'on respire, surtout à ce genre de profondeur, jusqu'à 150 mètres, notre corps sature. En gros, il doit évacuer les gaz superflus et les transforme en microbules. Ces microbules, elles se forment dans les veines et elles peuvent être très dangereuses. Elles peuvent provoquer des accidents en se coinçant dans les veines, les articulations, voire, pour les cas plus graves, dans la moelle épinière. On appelle ça des accidents de décompression. Ça peut aller d'une simple grosse fatigue après la plongée à une paralysie, mais ces accidents peuvent aussi entraîner la mort. A priori, quand on reste à la même profondeur, tout va bien. Les plongeurs ne le sentent même pas. Mais c'est quand on remonte que ça se corse. Il faut y aller progressivement, par paliers. Et c'est ça qu'on appelle les paliers de décompression. Donc concrètement, le plongeur s'arrête, palier par palier, pour remonter très lentement à la surface, le temps que les gaz soient évacués. Et c'est pour ça qu'en plongée, aujourd'hui, on ne peut passer que 7 minutes en profondeur pour une plongée totale de 4 heures. Dans l'attente, ça donne le temps de se retrouver avec soi-même.
Premier palier de décompression. Maintenant qu'on a appris ce que c'est, on va pouvoir le faire, décompresser. On prend le temps de respirer, il nous faudra plusieurs heures pour remonter à la surface. Un peu de musique avec le groupe belge His Trust Fund et leur morceau Song for the Ocean. Philippe François, chanteur et compositeur du groupe, nous a confié que cette chanson était la toute première qu'il a écrite lorsqu'il avait 17 ans. Le début d'un long voyage musical et aquatique. Bonne écoute sur Radio Campus.
sailors sitting in the yard while my sister's dressing up for those who like to think we're well-mannered folk. And everything the sorcerer gives turns into lightning and another war. The illusion just grows bigger as time goes. Just a song for the ocean. It's all that I gave and all that I have learned. I know where I was born and where I will return. He picks up his book, I guess he never learned the words. There's meaning in all this, then what's it worth? And the village fool runs in and spoils the party just as it's bound to blow. He's only saying that anything will go. Just a song for the ocean. It's all that I gave, all that I have learned. I know where I was born, where I will return. Just a song for the ocean. It's all that I gave, all that I have learned. I know where I was born and where I will return.
Nous venons d'écouter The Song for the Ocean du groupe belge His Trust Fund. Un morceau qui nous a accompagnés lors du premier palier de décompression de notre remontée progressive. Et maintenant, pour un second palier de décompression, un extrait du morceau Il Mare du groupe bruxellois Ali Gaga.
Bambino. risuona fatti cullare bambino. Lasciami andare dove profondo il mare.
Vous venez d'écouter un extrait du morceau Il Mare de l'album Music Might Help du groupe Emo Jazz Ali Gaga. Au chant, Federico Corsini et Vanessa Diaz-Gil. N'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram. Le nom du compte, c'est YeahAliGaga. YEAH_ALIGAGA. N'hésitez pas à écouter leur musique sur Bandcamp et surtout, allez les voir en live. Ils nous préparent des surprises en ce moment même. Cette chanson est finie et avec elle, notre remontée à la surface. Mais l'exploration ne s'arrête pas une fois la plongée terminée. Après la fierté d'avoir réussi une telle exploration, place à la recherche en laboratoire, qui permettra finalement de partager les découvertes au public. Le travail scientifique commence rapidement après la remontée. Écoutons Camille Moreau nous raconter l'étape d'échantillonnage dans le cadre de leur recherche.
Lorsqu'on collecte des échantillons, il va falloir qu'on les préserve, qu'on les mette en pot, qu'on commence à les analyser ou qu'on commence à faire du traitement dessus. À Madagascar avant de les ramener en Belgique, aller sur le terrain donc pour échantillonner, et ensuite il y a toute une partie de travail en laboratoire, etc. quoi. C'est vrai qu'on a focalisé la première mission sur un petit peu, pour nous c'était un peu la découverte aussi des sites, etc. Donc on n'a pas collecté énormément, mais donc on a un collègue de l'université de Liège qui était là aussi, qui lui a collecté des échantillons qui vont être traités cet été à Liège. Lucas a rapporté des échantillons de coraux noirs qui seront étudiés à Tournai. Moi, j'ai rapporté des échantillons d'échinodermes que je suis en train de traiter d'ailleurs ici à l'ULB.
Ce travail scientifique permet de construire des connaissances essentielles sur des milieux encore très peu connus. Et c'est justement là que se posent des enjeux plus larges, notamment en termes de protection de l'environnement. On parle des objectifs et des enjeux de la mission avec Luca Terrana dans la suite de cette émission.
Cette première mission, elle était tout d'abord exploratoire. On ne savait pas sur quoi on allait tomber, si la logistique allait être facile à mettre en place, les défis de plongée profond à Madagascar, etc. Donc il y avait d'abord tout un volet faisabilité auquel on devait répondre et qui s'est très bien déroulé. Donc ça, c'était vraiment un des gros axes aussi de la mission, c'est de voir si on peut organiser ça et si ça se passe bien. Ensuite, le deuxième volet, c'était d'explorer, puisque comme on ne savait pas sur quoi on allait tomber, on avait besoin d'abord de plonger, sans forcément échantillonner, mais vraiment pour comprendre quelles sont les communautés qui structurent ces écosystèmes, qu'est-ce qu'on observe, comment ça se dispose avec la profondeur, etc. Donc il y avait beaucoup d'observations. Et ensuite, le troisième volet, qui est intervenu donc, en fin de mission, c'est l'échantillonnage, la mise en place de protocoles scientifiques. Et donc, on a mis en place toute une série de protocoles relativement simples, mais exploratoires et essentiels pour avoir les bonnes fondations, pour aller plus loin la prochaine fois. Et donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on se doit d'étudier cette zone mésophotique, en particulier dans des pays comme Madagascar, où la recherche n'est pas forcément aussi développée qu'elle le devrait, faute de moyens, malheureusement. Premièrement, parce qu'on a des espèces qui n'ont jamais été décrites, et donc on ne peut pas protéger des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas nommer, bien sûr. Deuxièmement, parce que mettre à jour comme ça des zones parfaitement intactes, extrêmement riches d'un point de vue biodiversité, ça permet de prendre des mesures de conservation préventives. Donc on ne va pas attendre qu'il y ait des pollutions ou des dégâts pour protéger. On va anticiper. Alors quand je dis « on », nous on a fait notre part du job en tant que biologiste. Après, évidemment, c'est aux décideurs de mettre en place ces mesures-là qui relèvent parfois du politique. Mais en tout cas, nous, on a fait notre partie du travail. On met à jour des zones très riches, préservées, intactes. Et donc, c'est important ensuite que certains prennent le relais et protègent ces endroits pour anticiper toute problématique.
Merci, Lucas. Et c'est déjà la fin de notre plongée au cœur de la zone mésophotique et de l'expédition Nosibé 100. Une exploration qui ne fait finalement que commencer à dévoiler un monde encore largement inconnu. Cette première expédition, datant de novembre 2025, ouvre la voie à de nouvelles découvertes. L'aventure ne s'arrête pas là et une prochaine mission est d'ores et déjà prévue pour novembre ou décembre 2026, avec l'objectif d'approfondir encore ces travaux-là et d'élargir nos connaissances de ces milieux si mystérieux. Un immense merci à nos deux invités, les docteurs Luca Terrana et Camille Moreau, de nous avoir emmenés à travers leurs paroles au cœur de leur expédition sous-marine.
Et nous tenions également à remercier chaleureusement les musiciens et musiciennes de Ali Gaga et His Trust Fund, que je vais citer maintenant. Pour His Trust Fund, Philippe François à la composition, au chant et à la guitare sèche, Sarah Rass et Eva Tulkens, toutes les deux au chant et aux percussions, Mathias Hirnart à la contrebasse et Menno Buggenhout à la guitare électrique. Et ensuite, pour Ali Gaga, dont nous avons utilisé beaucoup d'extraits de l'album Music Might Help, sorti en 2023. Merci à Federico Corsini à la composition, à la contrebasse et au chant, Leonard Steigerwald au clavier, Daniel Jonkers à la batterie, Jos van Duren au saxophone ténor, Jon Sansemeyer au saxophone alto et Taijong Kim à la guitare, et à leur invitée Vanessa Diaz-Gill qui chante sur les deux morceaux que nous avons diffusés. N'hésitez pas à chercher leur nom sur internet et à soutenir leur travail de quelque manière que ce soit.
Vous êtes toujours sur Radio Campus, c'était Histoire du Savoir, votre rendez-vous avec la recherche scientifique de l'ULB. Nous avons exploré aujourd'hui les défis de la plongée mésophotique dans l'archipel de Nosy Be.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Cette émission vous a été présentée par Océane Elisa Soares et Marine Waterkane.
Très bonne suite de programmes sur nos ondes et à bientôt.